Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive ? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Salut ! Aujourd'hui, à la collective, on a Hello, salut. Alizé,
salut.
Et Vanessa.
Et Clara et Jess à la technique.
Salut.
Le 7 juin, c'est la marche des fiertés à Aubenas. Alors on en profite pour parler des transidentités. Et puis, ça nous fait une occasion en or pour vous faire écouter...
Encore ?
Un extrait sonore du 8 mars dernier.
Alors en fait, je vous cache pas qu'aujourd'hui, on vient vous raconter un peu notre somme. Voilà, bon, ça commence toujours comme ça. On était à ça, de vraiment changer nos vies. Et tout aurait pu devenir vachement plus simple. Mais bon, on s'est fait griller, vous nous connaissez, nous on arrive, on n'est pas trop discrètes, on nous entend arriver de loin avec nos paillettes et nos tenues de soirée. Et du coup, Macron il a vu. Et il a vu dans notre jeu et on a dû abandonner l'opération passage en mairie. Si vous n'avez pas suivi l'idée, c'est que... Bon, il a dit à BFM TV qu'il avait compris, qu'il avait capté que notre projet depuis le début, c'est de faire des changements de sexe en mairie. Ouais. Vous imaginez, ça aurait été quand même vachement classe. Et à l'hôtel de ville d'Aubenas, premier bureau passeport, deuxième bureau 10 de stationnement, ensuite bureau des espaces verts, bureau de transition de genre. Tu rentres, tu ressors, t'as pris rendez-vous, tu ressors. T'as plus de dysphorie de genre, t'as le corps de tes rêves, t'as la voix qui va avec, y'a tout qui va. Franchement, voilà, moi, personnellement, j'aurais bien kiffé. Après, peut-être qu'il avait raison, Macron, que ça aurait pu être dangereux, qui sait. On aurait pu rentrer dans le bureau sans le faire exprès. Voilà, bon, on sait pas. Hein. Vous avez bien compris, aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'autodétermination, et je vais le faire de façon plus, peut-être, sérieuse que pendant le début de ce discours. C'est un mot, l'autodétermination, qui aurait pu devenir super important cette année. C'est une réforme, comme il y en a déjà eu en Europe, qui aurait pu cette année avoir lieu en France. Une réforme qui permet d'obtenir un changement de mention de genre à l'état civil sur simple déclaration en mairie. Ça veut quand même dire mettre fin à des charges administratives énormes pour les personnes en transition. Et ça veut dire aussi mettre un terme à une situation qui, aujourd'hui, voit des juges décider de notre conformité de genre ou non par rapport au genre auquel nous identifions. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, nous réclamons autodétermination de genre pour tous, maintenant. C'était donc en juin 2024, en pleine campagne, et Macron attaquait le programme du NFP, selon lui ubuesque, avec des propositions comme, je cite, « aller changer de sexe en mairie ». Macron joue sur l'ignorance d'une grande partie de la population pour embrouiller les notions de genre et de sexe et pour tourner en ridicule une réforme pourtant déjà prise en Espagne et en Allemagne.
Bon, on a bien bossé. Notre équipe d'investigation a retrouvé cette personne. Il parie qu'elle fait partie d'Ardentiel, le collectif LGBT en Sud-Ardèche. On a même réussi à l'avoir dans le studio. Bonjour Mathieu.
Bonjour. C'était nécessaire les menottes ?
Ah bon, maintenant que t'es là, on t'écoute.
Oui, alors certaines se demandent peut-être déjà pourquoi La Collective, un podcast féministe, s'intéresse à la question des personnes trans. Alors bien sûr, on va vous répondre droits humains, intersectionnalité, convergence des luttes, etc. Mais ce serait accepté de dire que ce sont deux luttes qui n'ont complètement aucun rapport, alors que les luttes LGBT et féministes ont beaucoup en commun. Par plein d'aspects, pourtant, cette parenté ne va pas de soi. On entend parfois des critiques sur les personnes trans qui renforceraient les stéréotypes de genre, et une vision binaire et fixiste du genre. Le classico, c'est de s'en prendre aux femmes trans, donc des personnes assignées hommes à la naissance et qui transitionnent vers l'identité féminine. Quand certaines femmes trans disent qu'elles se sentent femmes parce qu'elles ont toujours été plus intéressées par les poupées, les choses féminines, alors les basiques du féminisme en nous se disent « Non mais quand même, l'objectif c'est de pouvoir se défaire de ces stéréotypes, pas de plonger dedans comme ça. » Alors oui, moi aussi je me suis dit ça un jour, et aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi c'était pas malin. Commençons par revenir à cette bonne vieille Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Donc le féminin est social, culturel, c'est le genre. Il n'y a aucune fatalité biologique pour un bébé naissant avec une vulve, c'est la société, qui va en façonner un être différent, des bébés nés avec un pénis. Et l'inverse fonctionne aussi. Donc, dès le début, le féminisme s'est lutté contre la naturalisation du genre, c'est-à-dire le fait de faire coïncider le genre avec le sexe biologique. Il n'y a pas de nature féminine, seulement un conditionnement social. Et là, on a déjà le premier point commun avec la lutte LGBT, qui affirme le droit de chacun chacune à avoir une libre expression de son genre et à s'identifier à n'importe quel genre en dépit de celui qui lui a été assigné à la naissance. Le féminisme lutte donc contre une vision du genre naturalisée, mais aussi contre la prétendue « complémentarité » des genres. Cette complémentarité va de pair avec l'idée que les deux genres sont d'une nature foncièrement différente, voire opposée. Les deux genres seraient néanmoins complémentaires dans le sens où les attributs de genre féminin et masculin, nécessairement opposés entre eux, se compléteraient, notamment lorsque l'une et l'autre s'associent dans un couple hétéro. Nouveau pont assez évident avec les luttes LGBT. Et donc on en arrive au dernier aspect du genre patriarcal, c'est sa binarité. C'est-à-dire considérer qu'il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, rien en dehors, rien au milieu, et peu de place pour les variations au sein de chaque groupe. Et là, on retrouve la trace des récits transstéréotypés dont on parlait plus tôt. Et on peut réussir à comprendre un peu mieux d'où ils viennent. En fait, dans leur vie, et plus particulièrement dans leur parcours de transition de genre, les personnes trans se heurtent à la vision très binaire des médecins, des juges et de toute la société. Plus elles sont minoritaires et fortement discriminées, plus elles doivent adapter leur comportement et leur discours aux attentes de leur auditoire, afin d'éviter les discriminations et les violences. Les discours doivent s'adapter aux catégories mentales des personnes cisgenres, donc ne pas trop s'éloigner de la binarité du genre. Ben ouais, si vous ne voulez pas être une femme, alors forcément c'est que vous voulez être un homme. Et donc un homme bien viril, bien hétérosexuel. Et si vous voulez être une femme, c'est forcément que les attributs de la nature féminine vous ont plus touché que ceux de la virilité. C'est entre ces préjugés que les personnes trans doivent slalomer, parfois en jouant le rôle qu'on attend d'elles, parfois en s'en émancipant, souvent en faisant ce qu'elles peuvent. Du coup, on a réglé un problème. On avait l'impression que les discours et les parcours des personnes trans nous renvoyaient une vision du genre plutôt fixiste, binaire ou naturalisante, alors que ce vers quoi nous oriente la pensée féministe et queer descendante de Simone et compagnie, c'est une certaine liberté, une fluidité du genre. Eh bien, ce grand écart apparent, ce n'est donc pas du tout la faute des personnes trans. Elles ne font que s'adapter aux institutions du genre et éviter au mieux les obstacles et les violences. Alors bien sûr, dans l'idéal, tout le monde pourrait se défaire des préjugés et attentes de genre et vivre sa vie librement, avoir une expression de genre dite féminine, sans devoir faire en sorte d'être lu par les autres comme une femme. Mais on ne vit pas dans l'idéal, et pour beaucoup, dépasser les normes de genre, c'est mettre sa vie en danger. C'est parce que les personnes trans sont pointées du doigt comme des clandestins du genre, des délinquants qui débordent des genres dits naturels et binaires, qu'elles sont souvent obligées de se conformer à des expressions de genre et à des discours plus stéréotypés. Il faut ajouter qu'il existe aussi des personnes trans au parcours et expression de genre qui s'extraient de cette binarité, mais si la société accepte encore difficilement la transgression de genre entre guillemets « naturelle » quand on s'émancipe du genre assigné à la naissance, il est encore très mal vu et mal compris de s'extraire de la vision binaire et complémentariste en optant pour des parcours hors de la binarité, naviguant entre les genres. Alors bien sûr, il reste encore pas mal de malentendus à éclaircir entre les visions féministes et trans, malentendus sur lesquels prolifère l'offensive transphobe. Mais bon, désormais, vous aurez ça dans votre sac quand il faudra démonter les préjugés au repas de famille, et surtout, souvenons-nous que le problème avec le genre patriarcal, c'est qu'il est prétendu naturel, complémentaire et binaire.
Protégeons nos enfants, il faut hurler. J'espère que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, CNews, Europe 1, vont se lever pour dire à leurs députés: vous ne pouvez pas faire ça.
Alors ça, c'était De Villiers qui crie au scandale et qui demande notamment le démantèlement de la Haute Autorité de Santé. Et on vous épargne son discours, vous n'avez qu'à allumer CNews si vous voulez l'entendre. Par contre, on le prend au mot sur cette idée de protéger les enfants.
On peut parler de panique morale autour des questions liées aux transidentités. En effet, une panique morale est une réaction collective disproportionnée à des pratiques culturelles ou personnelles, en général minoritaires, considérées comme déviantes ou néfastes pour la société. CF Wikipédia, source en béton. Ici, la panique morale consiste à dire 1. Qu'un lobby inciterait les jeunes à transitionner, et 2. Que cela nous conduirait à l'effondrement de notre société. Oh non, pas la fin du patriarcat. Alors, on va pas se mentir, questionner le genre dans notre société et ne pas le prendre comme un fait naturel mais comme une construction sociale discutable, c'est un début pour mettre à mal le système actuel. À savoir celui où l'homme blanc hétéro est la norme et détient le pouvoir. Mais contrairement à De Villiers, ça nous fait plutôt kiffer comme perspective. Vous savez qu'on a confiance en notre audience, on a décidé d'utiliser la collective pour désamorcer la panique morale et réfléchir à comment réellement protéger les enfants et les grands et grandes, qui elles soient cis ou trans. Et la première étape pour ça, c'est de savoir de quoi on parle.
Qu'est-ce que ça veut dire faire une transition ?
La transition de genre est un long processus qui permet à une personne de s'affirmer dans le genre dont elle se perçoit et dans lequel elle peut s'épanouir. On laisse tout de suite la parole à Lexi Agresti, qui est une historienne de l'art et une militante trans, notamment connue pour son compte Instagram Aggressively Trans.
Transition, comme le mot l'indique, c'est vraiment le moment de chemin, de changement. Effectivement, on retient souvent seulement la transition médicale, parce que c'est là qu'il y a les changements physiques qui peuvent être parfois très, très marqués, très spectaculaires. En plus, on partage beaucoup de photos avant-après. Donc, la transition médicale retient beaucoup l'attention. Mais avant ça, et peut-être même de façon plus importante symboliquement, il y a la transition dite sociale. Ouais. C'est le fait de vraiment changer... Et partager, donc faire les coming out, et on fait plein de coming out à tous ces cercles sociaux, donc le fait de partager son identité de genre, le fait de changer et de partager le fait qu'on change de prénom, les pronoms aussi, tous les accords grammaticaux, ça passe aussi par le changement de garde-robe, c'est vraiment la première étape, c'est par ça que ça commence, parce que aussi les législations font qu'on n'a pas accès aux transitions médicales de façon vraiment... capricieuse et comme on veut, hein, c'est très encadré, contrairement à ce qui est aussi partagé en ce moment. On a souvent voulu faire des schémas très très clairs de on souffre dans notre corps et on souffre aussi dans le genre qui nous est assigné, comme si c'était un seul énorme package. Mais dans les faits, il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de transitionner médicalement, de changer de corps, qui n'ont pas du tout une relation conflictuelle à leur biologie. C'est ça aussi qui est très compliqué, je crois, qui est en train de se redéfinir un peu avec la visibilité grandissante des personnes trans. C'est que finalement, on est dans des situations qui sont extrêmement nuancées et que le seul point commun sur lequel on peut vraiment généraliser, c'est cette définition de une personne trans n'est pas du genre qui lui est assigné à la naissance. Et je pense que c'est aussi ce qui fait à la fois la curiosité qui est très notable pour les personnes trans actuellement et aussi un peu les oppositions. C'est que finalement, on est de plus en plus à prendre la parole au sein de la communauté et à affirmer que les généralités, elles sont quand même très compliquées.
Alors, on écoutait Lexi Agresti, et maintenant, on va poursuivre avec une lecture de Tal Madesta, La fin des monstres. Et vous pouvez entendre un mot un peu barbare, le mot dysphorie. La dysphorie de genre, c'est l'inconfort, voire la souffrance que vivent certaines personnes vis-à-vis de l'inadéquation entre le genre qui leur a été assigné à la naissance et leur genre véritable.
Certains, certaines, étaient sûrs de leur décision, d'autres non. Certains, certaines, vivent une transition en dents de scie, quand d'autres carburent pour en finir au plus vite. Chercher à expliquer les origines de la transidentité n'est qu'une manière de rationaliser ce qui est perçu comme une ignoble tragédie. À l'image de ces parents éplorés qui se demandent si l'homosexualité de leur enfant leur est imputable. Mais c'est aussi une manière de nous assigner à la maladie, que d'affirmer que la seule raison valable de transitionner est une insoutenable dysphorie ne prenant jamais de vacances. Désemparée par la difficulté de ce chemin de vie, j'ai un jour exprimé à une amie chère ma peur de m'être totalement plantée. Elle m'a dit « Oublie ton passé. Que te provoque l'idée d'être une femme ?» Cette perspective désespérante a ouvert un gouffre sous mes pieds. Elle m'a alors glissé tendrement. « Si tu es heureux comme tu es aujourd'hui, aucun comment ni pourquoi ne compte. »
Il n'y a pas de parcours de transition type et il n'est pas forcément linéaire. Il peut compter des pauses, des retours en arrière. On retrouve dans la plupart des cas une alternance entre phase de questionnement, phase d'action et des pauses. On parle beaucoup ces temps-ci des traitements pour les mineurs trans, avec un bon paquet d'idées reçues. Alors on prend le temps de faire un petit point sur ce qu'il en est en réalité.
La puberté, c'est une période facile pour personne, et pour les enfants trans en particulier. Ce qui est principalement prescrit aux mineurs, ce sont des bloqueurs de puberté qui vont stopper temporairement le développement des caractères sexuels secondaires, comme la pousse des seins, de la barbe, la mue de la voix, etc. Dès que l'ado arrête ses traitements, la puberté reprend son cours. Ils sont utilisés pour laisser du temps de réflexion. Lorsque la jeune personne est sûre de son choix, des traitements hormonaux peuvent lui être prescrits avec l'accord de ses deux parents. L'utilisation des bloqueurs de puberté n'est pas recommandée sur le long terme, mais n'a pas d'incidence sur une période limitée. Dikshita Ganesan, chargée de mission à l'association Transgender Europe, nous explique.
Restreindre l'accès aux bloqueurs de puberté n'est pas une approche neutre. Elle peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale des jeunes personnes transgenres, qui sont contraintes de subir la puberté. Au contraire, la recherche a montré que la santé mentale des personnes qui ont accès à des soins de santé spécifiques aux personnes transgenres s'améliore et est comparable à celle des personnes cisgenres du même âge.
Les discours réactionnaires qui s'inquiètent des traitements médicaux ou chirurgicaux des mineurs trans sont hypocrites, et le cas des enfants intersexes nous le montre très bien. Ces enfants ont des caractéristiques physiques ou biologiques qui ne correspondent pas aux définitions normées de la masculinité et de la féminité. En France, elles représentent 1,7% des naissances. Et elles subissent encore trop souvent des opérations chirurgicales sur leurs organes sexuels, ablation du clitoris, castration, vaginoplastie, puis sont soumises à des traitements hormonaux très lourds. Autant d'interventions visant à leur donner une apparence conforme à l'idée que la société a d'être une fille ou un garçon. Mais dans ce cas-là, hormones et opérations ne semblent pas poser de problème à De Villiers et à ses camarades. Les collectifs de personnes intersexes luttent contre ces interventions et pour que les enfants puissent choisir, en grandissant, si elles veulent ou non passer par la chirurgie, l'hormonothérapie, etc. À ce sujet, Gabrielle Richard, souvenez-vous, la sociologue avec un accent québécois qui nous parlait des familles queer le mois dernier, nous dit
« Si l'argument mobilisé est effectivement celui de l'immaturité d'un public mineur face à des procédures médicales présentées à tort comme complètement irréversibles, pourquoi n'y a-t-il personne pour se scandaliser des mutations génitales infligées aux bébés intersexués ? Si l'on estime les bloqueurs de puberté dangereux, comment expliquer qu'on les prescrit depuis des décennies aux jeunes chez qui se déclenche une puberté jugée trop précoce ? On voit bien que ce qui pose problème, ce n'est pas le fait d'intervenir médicalement sur des corps ou des personnes mineures, a priori en bonne santé. Parce que si c'était le cas, on descendrait dans la rue pour porter haut et fort les revendications des personnes intersexes. Non, ce qui est en jeu, c'est l'imposition par des adultes sur de jeunes personnes de normes de genre binaires. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today,
d'écouter Anony and the Johnson, For Today I'm a Boy. Donc on le répète, la transition ne passe pas forcément par un traitement hormonal ou médical. La transition sociale est tout aussi importante. Courte parenthèse vocabulaire, pour les personnes qui, comme nous il y a peu, ne connaissaient pas le mot « dead name », C'est donc le prénom donné à la naissance, mais abandonné par la personne pour choisir un nouveau prénom qui corresponde mieux à son identité de genre. Cette précision pour vous permettre de mieux comprendre le témoignage qui suit.
J'ai commencé ma transition il y a déjà 2 ans, en changeant de prénom auprès de mes proches. J'ai redoublé et changé de lycée, et en arrivant au lycée en première, je portais déjà mon prénom actuel, et mis à part les formateurs, personne ne connaissait mon dead name. Ils m'appelaient par mon prénom masculin, mais me genraient au féminin la plupart du temps. Les élèves faisaient des efforts, contrairement aux formateurs. Il a fallu que j'arrive en dernière année pour que mon dead name soit révélé à toute la classe. La liste d'appel a dû être modifiée pour Parcoursup, m'a expliqué le directeur, mais il a oublié de la changer entre-temps. Et 2 profs sur 2 semaines consécutives, alors que je m'étais plaint pour la première fois, ont révélé mon dead name devant toute la classe. Ils se sont excusés, mais seulement parce que je suis allé vers eux. Toute cette histoire m'a fait partir en crise d'angoisse plus d'une fois, et quand j'y repense encore, ça me met mal. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est perturbant d'entendre son dead name, et en plus devant plein de gens qui, j'en suis persuadé, auraient pu retourner ça contre moi et en jouer si je n'étais pas quelqu'un qui s'affirme autant.
L'école peut en effet être un endroit de vulnérabilité pour les ados en transition. Si l'institution ne peut pas tout maîtriser, elle doit à minima reconnaître la légitimité des demandes des personnes en transition et proposer un cadre qui sécurise. Du côté de l'État, une circulaire répondant au doux nom de Blanquer a été adoptée en 2021. Celle-ci reprend les recommandations du défenseur des droits et enjoint les chefs d'établissement scolaire à respecter l'usage du prénom et du pronom choisi par la personne et de l'inscrire sur tous les documents non officiels. Carte étudiante, carte de cantine, liste d'émargement, courriel, etc. Ne pas le faire est reconnu comme une discrimination. Le site Wikitrans propose une lettre type que vous pouvez remplir et envoyer au directeur ou à la directrice d'établissement.
Si on salue ces évolutions récentes, il faut cependant insister ici sur la plus grosse limite de cette circulaire. L'accord des 2 responsables légaux de l'enfant est nécessaire pour que la demande soit prise en compte. Ce qui veut dire que pour tous les ados dont au moins un des parents s'oppose à la transition, la circulaire ne résout rien. À savoir, au Québec et dans le canton de Vaud en Suisse, cette autorisation des 2 parents n'est pas nécessaire. Il est donc sûrement possible de faire autrement ici aussi. Il y a aussi tout un travail de formation à faire pour les CPE, directeurs et directrices d'école, infirmières scolaires. Ici, en Ardèche, le planning familial propose d'ailleurs une formation qui s'intitule « Accueil respectueux des personnes trans » et c'est une formation à destination des personnes qui accueillent du public, pour les professionnels de l'éducation, mais aussi du soin, médecins généralistes, gynécologues, psy, sages-femmes, infirmières, etc. Charlie et Gwen, du planning familial, ont également mis en place des groupes de parole pour les personnes trans.
Donc moi, je m'appelle Charlie, je suis militant et bénévole au planning familial depuis 5 ans maintenant. Avec Gwen, on a lancé ces groupes de parole il y a 2 ans.
C'est ça, du coup, moi je suis Gwen, militante au planning familial. Donc moi, j'ai fait ma transition en étant en Ardèche. L'une des premières choses que j'ai fait à ces moments-là, c'est du coup rechercher des groupes de parole parce que j'avais besoin de conseils, de voir d'autres personnes trans dans la vraie vie, pas comme ils étaient représentés dans les médias ou je sais pas quoi, ou sur Internet, mais vraiment des vraies personnes. Et du coup, en Ardèche, c'était compliqué. J'ai été jusqu'à Marseille pour faire des groupes de parole. J'ai eu la possibilité de le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que quand Charlie m'a proposé de lancer un groupe de parole en Ardèche, j'étais super partante.
Et moi, j'étais donc aussi en Ardèche et j'ai commencé ma transition. J'ai trouvé toutes les infos sur Internet. Et en fait, je me suis dit que c'était pas accessible à tout le monde, quoi, parce que c'est pas évident de trouver les informations. Et j'ai eu envie d'aider les personnes autour de chez moi, potentiellement intéressées ou potentiellement aussi dans la recherche d'informations. Et du coup, j'ai rejoint le planning pour ça, quoi, pour proposer de l'aide et du soutien et de l'information. Et le meilleur moyen de faire ça, je me suis dit que c'était les groupes de parole. Et donc, je me suis formé au planning pour animer ces groupes de parole. Et j'ai proposé à Gwen, avec qui je m'entends bien, pour faire ça.
Alors, c'était des groupes de parole pour personnes trans, personnes en questionnement sur leur identité de genre. Et on rajoute personnes non-binaires, même si on les inclut dans les personnes trans. Mais comme nous, on n'est pas spécialement non-binaires, on aime bien préciser que ce n'est pas ouvert qu'aux gens qui nous ressemblent.
Tout à fait, et il y a des personnes non-binaires qui se reconnaissent pas comme personnes trans, du coup, voilà, ça nous semble important de le différencier.
Du coup, c'est plutôt un groupe pour adultes, parce qu'on a plus ou moins essayer de ouvrir à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes problématiques pour les jeunes que pour les adultes.
Bah, ils étaient seuls, du coup au milieu d'adultes, ils se sentaient pas à l'aise et ouais, du coup voilà, ils sont pas revenus d'eux-mêmes et nous on s'est dit que c'était pas non plus pertinent qu'ils soient mélangés avec les adultes. Donc depuis on a quand même réfléchi et on aimerait proposer un accueil que pour les ados. Et c'est en cours de construction, donc on voudrait faire pour les ados LGBTQIA+ en Sud-Ardèche. Donc c'est en cours de, voilà, avec le planning, on y travaille.
Au tout début aussi, on avait fait un groupe de parole, on avait essayé de lancer un groupe de parole pour les personnes proches, mais en vrai, il n'y avait pas eu assez de personnes qui sont venues, mais c'est vrai que c'est un truc qui nous tient à cœur d'essayer d'accompagner les gens qui accompagnent des personnes trans, en fait, parce que c'est... Il y a des problèmes, tout plein de problématiques qui se posent et c'est vrai que c'est pas forcément facile d'en parler pour ces gens-là en dehors d'endroits faits pour, en fait.
Ouais, et donc c'est toujours en suspens et ça, s'il y a des proches qui nous contactent, on peut relancer le groupe de parole pour les proches, quoi.
Oui.
Okay.
Et les groupes, ils ont lieu à quelle fréquence et où?
Alors, ils ont lieu une fois par mois et une fois c'est à Aubenas et une fois c'est au Vence.
Du coup, vous nous avez expliqué un peu à quels besoins répondaient les groupes de parole. Est-ce que vous pouvez nous dire, lors des entretiens individuels, à quoi ça vient répondre, justement, comme besoin?
Alors, les parents qui nous contactent pour un entretien individuel, c'est souvent lors de l'annonce du ou de la jeune. Et là, il y a un petit moment de panique, en fait, parfois, ils se sentent un peu perdus. Et du coup, ses parents contactent le planning familial et là, on le reçoit. Alors, jusqu'à maintenant, ça s'est fait avec le planning familial, donc avec une personne, une CCF, une conseillère conjugale et familiale du planning familial. Et pour l'instant, c'était plutôt moi. Et donc, on accueille le ou la parente pour rassurer ou donner des informations. Voilà. C'est plutôt pour rassurer en général, quoi. Parce que pour le parent, c'est vraiment nouveau et le parent se sent démuni.
Certaines personnes trans ont demandé ça aussi, juste avant de rentrer dans le groupe de parole, qui ont besoin d'abord de nous rencontrer en individuel ou de parler de leurs problèmes longuement de façon individuelle.
Très souvent, ça commence par le parcours médical, en fait. Donc, de trouver soit un ou une endoc pour le traitement d'hormonothérapie. Pour l'hormonothérapie.
Okay,
et alors les généralistes peuvent prescrire pour l'hormonothérapie féminisante, mais pas masculinisante, parce que c'est des produits dopants, en fait. C'est considéré comme produits dopants. Donc en fait, c'est que les endocs qui peuvent prescrire. Ils peuvent prescrire la première prescription et ensuite les généralistes peuvent renouveler les prescriptions. Mais il faut quand même un endoc au départ pour commencer, quoi. Et donc il y a le problème de trouver une endoc dans la région, quoi. En Sud-Ardèche, le médical, c'est pas évident. Et ensuite, des fois, il y a des juste trouver un ou une généraliste qui soit où on se sente en confiance, en fait, parce qu'il y a ce problème-là. C'est un problème qui est partagé aussi, par exemple, parfois par les femmes, où il y a des médecins qui sont pas hyper chouettes, quoi. Ben, c'est pareil pour la transidentité, en fait. Il y a des médecins qui sont pas hyper chouettes. Donc, on essaie de se refiler les noms des généralistes qui sont chouettes. J'ai eu des demandes de gynéco, tout bête, mais juste avoir du personnel médical qui soit accueillant, qui pose pas de questions intrusives, qui pose pas de questions déplacées.
Qui connaissent un peu le sujet, enfin, en tous les cas pour les généralistes, il y en a plein qui connaissent pas le sujet, et c'est normal, hein, c'est pas un sujet ultra répandu, et du coup, juste des fois... sur des médecins qui savent pas, en fait, et qui peuvent pas, du coup, même avec toute la bonne volonté du monde, peuvent pas répondre à nos demandes. On ne reçoit pas que des personnes qui ont besoin de transition médicale, en fait, et nous on en a eu besoin, mais c'est vrai qu'on le répète aussi au début de chaque groupe de parole, que ces personnes ont leur place aussi dans notre groupe, et du coup il y a aussi d'autres problèmes qu'on... relevé, mais en fait il y a beaucoup de... c'est compliqué de dire, il n'y a pas un problème général, souvent des soucis avec la famille, mais ça c'est des trucs très, très individuels, du coup c'est un peu compliqué de faire des généralités. Aussi des trucs qui reviennent souvent, j'ai l'impression, c'est le fait que comme on est en Ardèche, il y a des trucs où il y a vite des gens qu'on connaît, qu'on vous fréquente souvent, mais qu'on connaît pas assez pour faire un coming out, et du coup il y a des gens qu'on connaît de lointain, qui vont nous voir changer, que du coup on sait pas trop comment gérer la situation, de Est-ce qu'il faut leur faire un coming out? On ne se connaît pas assez pour faire un coming out. Du coup, qu'est-ce qui se passe à cette école-là? Enfin, ce genre de... Ça, j'ai l'impression que ça revient quand
même. Ouais, beaucoup de questions de sociabilisation.
Ouais.
De comment faire, voilà, comment on fait avec les voisins, le voisinage, comment on fait les lieux de... Alors, pas de drague, mais voilà, de quand on sort en soirée. Ouais. Est-ce que je dis que je suis une personne trans ou pas? Il y avait pas mal de questions comme ça. Au travail, les questions de travail. Comment ça se passe au travail? Comment on fait au travail? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que je suis obligé de dire? Il y a quoi d'autre comme questions? Voilà, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas...
ça nous occupe déjà bien. Et des fois, on rigole.
Mais ouais.
Et des fois, on rigole. Des fois, on rigole quand même.
Oui, quand même.
Et du coup, vous donneriez plutôt quel conseil, de manière générale, à l'entourage, qu'il soit familial ou amical, des personnes qui sont en parcours de transition?
Alors, moi, je dirais de faire attention aux questions qui sont posées. Et quand on veut poser une question, d'imaginer que cette question nous est posée en fait, parce que il y a souvent des questions intrusives en fait, et les personnes peuvent se permettre des questions, et c'est voilà, et c'est de l'ordre de l'intime souvent, enfin, et ça c'est un peu dur pour nous des fois à entendre, à recevoir. Personne vous demande à une personne cisgenre, donc cisgenre c'est une personne qui se reconnaît dans son genre de naissance. Personne ne demande la taille du pénis, la taille du clitoris, enfin voilà. Et en fait, on n'a pas à nous demander voilà, ce que nous on a dans nos slips, caleçons, culottes. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la question qui revient tout le temps et souvent, ou l'interrogation en tout cas qu'il y a souvent derrière les questions. Enfin, et ça, c'est pas possible quoi.
Oui. Non, après, une autre question qu'on ne peut pas forcément savoir, mais c'est vrai que genre. Comment tu t'appelais avant, ou des trucs comme ça. C'est... En vrai, en soi, moi, ça ne me dérange pas qu'on me pose la question, je ne vais pas y répondre. Mais c'est vrai que ça fait part... Pour moi, c'est un truc qu'on ne peut pas forcément comprendre si on n'est pas trans. De genre, il y a des personnes trans qui ont un rapport vraiment traumatique avec leur prénom d'avant. Et c'est... Voilà.
Et je dirais que le mieux, bah, c'est de soutenir, en fait, de faire attention à comment, si la personne elle change de prénom, bah de faire attention à utiliser le bon prénom et faire attention à genrer correctement. Quoi. Ça, c'est vraiment la base, je dirais.
Quand tu dis genrer, c'est utiliser le bon pronom, c'est ça?
Ouais.
Oui. Oui, c'est ça. Et
puis, les bons accords.
Les bons accords. Les... Ouais. Ouais, c'est vraiment un truc où on ne s'en rend pas compte. Mais surtout, les gens peuvent vite ne pas s'en rendre compte, mais c'est vraiment des trucs qui blessent. Et surtout en début de transition où on est assez fragile en fait. Après voilà, pour moi il n'y a pas des conseils absolus, genre à part je ne vais pas rajouter grand chose, mais juste être gentil en fait. Et du coup ben, accompagner de façon compréhensible la personne, mais aussi être compréhensif avec soi-même en fait, et s'accorder des petites erreurs.
Oui, qu'il y a le droit à l'erreur pour les personnes proches.
Oui, c'est ça.
Ils peuvent se tromper, mais quand même, de faire attention, quoi. De,
oui, vraiment, c'est ça. L'important, c'est de faire attention, en fait, et pas de jamais se tromper, en fait. Mm. Parce qu'on est des êtres humains, en fait. Donc, tout le monde se trompe dans la vie, de façon générale, sur tous les sujets.
Et mais... en fait, pour les plus jeunes, en fait, les mineurs trans, c'est, donc, en fait, les mineurs trans, ils n'ont pas forcément accès à tout ce qui est médical. Parce que légalement, il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais il y a un truc qui est super soutenant en fait, et qui n'a pas d'implication à long terme sur la vie, enfin, sur le physique de l'enfant et sur son, mais par contre qui est hyper important pour son moral et son bien-être. Bah, c'est voilà, si un ado dit bah moi je me sens pas dans mon genre de naissance, et bah en fait c'est juste de lui dire ok, et de soutenir ça en fait, parce que ça a pas d'implication quoi à long terme, mais c'est à court terme, c'est hyper important, quoi. Donc, si l'enfant il demande à changer de prénom et à changer de genre, et voilà, et ben pourquoi pas, quoi, en fait. Enfin, c'est pas forcément facile pour les parents, mais c'est hyper important pour les enfants, quoi, pour les jeunes. En fait, faire une transition, c'est vraiment énorme, en fait. C'est juste, on change pas de couleur de cheveux, en fait. Et c'est vrai que nous ramener à notre vie d'avant, ben en fait. Ça nous a coûté cher de changer de vie, ça nous a coûté beaucoup d'énergie, Et en fait, de toujours nous ramener à « Ah ouais, mais avant, t'étais comment ? Et t'as pas une photo de avant ? Et c'était quoi ton prénom avant ?» Et en fait, c'est dur, quoi, parce que avec tout ce que ça nous coûte d'essayer d'avancer vers l'avenir, quoi, c'est pas chouette, en fait, d'être oui, ramené ça. À avant.
Oui, il y a vraiment un côté de genre, comme tu dis, c'est coûteux et c'est une libération et c'est un chemin personnel très long qu'on a réussi à faire et qu'on avance et qu'on va vers l'avenir, etc. Et c'est vrai que ouais, ça peut être lourd quand c'est trop souvent.
Et le prochain groupe de parole, vous avez déjà une date
Oui, le prochain groupe de parole, du coup, ça sera le 14 juin au Vence, du coup.
Et puis pour, bah pour savoir où c'est, parce qu'on change deux fois de lieu, on mettra les coordonnées sur le site de l'émission de radio. On vous laissera un numéro de téléphone de contact et une adresse mail.
Ok, voilà. Super. Merci.
Voilà. Bah, merci à vous.
Merci
pour votre accueil.
Pour compléter ce que Charlie et Gwen nous ont dit, on vous invite à explorer le site internet Wikitrans pour mieux comprendre et savoir comment agir en allié. Et maintenant, on va écouter une petite sucrerie.
Avec mes copines, quand on zone sur internet, on trouve souvent des commentaires un peu bêtes. Des gens pas malins disent que puisque c'est comme ça, ils s'identifient à un hélicoptère de combat. Moi j'ai pas compris leur problème à ces connards. On peut plus rien dire sans s'en prendre plein la poire. Que ça peut leur faire qu'il y ait des meufs avec des bites? Est-ce que ça leur fait peur de voir que ça les excite? Moi j'ai décidé que la meilleure chose à faire, c'était de vraiment devenir un hélicoptère. Avec mes copines, on est retourné sur internet, trouver un chirurgien, je lui ai dit coucou c'est Nanette. Voulez-vous bien me mettre des hélices sur la tête, et pour faire peur aux méchants, une jolie petite mitraillette.
Hélicoptère de combat par le groupe de meufs trans Deserty Girls, et c'était génial.
On a mis le doigt sur les difficultés des parcours de transition, mais on a envie de rappeler qu'un parcours de transition, c'est aussi et surtout un parcours pour aller vers du mieux, pour rejoindre son point de confort, pour se sentir soi-même. On réécoute Lexi.
En fait, les moments magiques, il y en a eu plein, et toute la transition, ça a été un moment magique. Je sais que la transition sociale... juste pouvoir sortir, même s'il y avait les regards, même s'il y avait les insultes. En fait, je me sentais juste trop puissante de plus du tout transiger, de plus du tout les demi-mesures, plus rien. Et vraiment sortir en se sentant puissant, je le souhaite à n'importe qui. Et ça devrait être le but. Tout le monde devrait pouvoir le vivre, quoi. Après, il y a vraiment eu le fait de commencer les hormones. Ça a été très drôle. Vraiment, j'utilise le mot drôle pour parler de ma transition hormonale parce que j'ai trouvé ça juste marrant à vivre, quoi. C'était au fur et à mesure voir des changements, se réveiller et enfin se regarder, se dire ah ouais bah ça n'était pas là avant.
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui?
Mais c'était ça. C'est oui vraiment et j'ai trouvé ça hyper magique.
Et on termine sur une dernière recommandation lecture, la BD Transition d'Élodie Durand, où Anne Marbeau raconte comment elle a accepté la transidentité de son enfant. La BD se termine sur un mail d'Alex, donc l'enfant, à sa mère. J'ai confiance en celui que je suis devenu. Ce que je veux dire, c'est que je ne m'inquiète pas pour mon futur. Et je pense que vous ne devriez pas vous inquiéter non plus. Quand je ne savais pas qui j'étais, mes projets étaient flous, mes espoirs endormis. Aujourd'hui, tout est plus clair. J'ai des amis, des passions et un avenir. J'ai des colères à laisser éclater, des pages à noircir, des nuits à blanchir. J'ai une cause à défendre. J'ai vous, et puis j'ai moi-même. Après tout, je ne me suis jamais laissé tomber.
Nous avons beaucoup parlé dans cette émission des relations interpersonnelles. Mais à la collective, on pense que de changer les choses à un niveau individuel, c'est bien, c'est une étape nécessaire. Mais il nous semble indispensable d'élargir la focale, de réfléchir aux discriminations subies par les personnes trans à un niveau structurel, en se penchant sur leurs conditions matérielles d'existence, comme l'accès au travail, au logement, en réfléchissant aux représentations médiatiques. On voudrait aussi vous parler des luttes portées par des personnes trans qui s'inscrivent plus largement dans des mouvements anticapitalistes. Promis, on vous raconte tout ça dans un prochain épisode très bientôt.
Et c'était la dernière de la saison, alors avant les vacances, on remercie Clara à la technique, Fréquence 7 de produire l'émission et de nous supporter, le gouvernement de nous fournir toujours autant de sujets de chroniques énervés, et le capitalisme pour son soutien inconditionnel à tous les systèmes d'oppression. Comme chaque été, on a espoir de voir advenir la paix et la chute du patriarcat, du capitalisme et du racisme d'État. Mais bon, a priori, on se retrouve quand même à la rentrée, et avant ça, le 14 juin, à noter dans vos agendas, une grande mobilisation s'organise à Aubenas, une mobilisation de soutien à la Palestine. Le rendez-vous est donné à 11h à l'Agora, et on vous y attend nombreux et nombreuses. En attendant, on vous souhaite un bel été et on vous dit à la rentrée.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi, elle dit « mais la révolution fera le ménage ».